Retour du top 12 avec la 10e journée, dernière journée de la phase régulière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à Fos-sur-Mer avec notre invité du jour, Tom Lalotre-Eckart. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that!
Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on va continuer notre principe de la saison de recevoir à chaque fois un représentant de club à chaque journée. On le fera aussi, je pense, pour les playoffs. En attendant, on reçoit donc Tom Lalotre-Eckart, joueur de Fos-sur-Mer. Salut Tom, merci beaucoup d'être avec nous.
Salut, bah merci à vous, en tout cas, c'est cool quoi, merci.
Et je suis, comme d'habitude, pour ce podcast, accompagné de Benoît. Salut Benoît.
Salut Tom, salut Ewan.
Salut.
Alors Tom, j'ai une première question. Alors je pense que nos auditeurs, ou en tout cas certains te connaissent déjà, ou en tout cas connaissent ton nom, mais est-ce que tu peux un peu te présenter, et notamment présenter ton parcours, dire un peu ton club formateur, où tu t'entraînes aujourd'hui, ce genre de truc quoi.
Alors, moi, c'est Tom Lalotre-Eckart, j'ai 18 ans, donc je suis junior 2 actuellement en France. Donc, j'ai commencé au club de badminton Seine-et-Saône dans le 91, à Saint-Germain-lès-Corbeil, et j'ai changé de club l'année dernière. Donc, c'est ma première saison à Fos. Donc, c'est mon club formateur où j'étais depuis le départ. Donc, après, ensuite, en quatrième mois, je suis rentré au Crêpes de Châtenay-Malabry, au Pôle Espoir. Où j'ai fait 3 ans, et ensuite je suis rentré au Pôle France de Strasbourg en première. Donc là, je vais finir ma deuxième année au Pôle France de Strasbourg. Et du coup, je suis joueur de double homme et de double mixte.
Et du coup, petite question sur ce que tu as évoqué. Comment ça se passe? Parce que tu joues à Fos, si j'ai bien compris, tu es originaire de Paris et tu t'entraînes à Strasbourg, c'est ça? Comment ça se passe la vie? Enfin, comment tu t'organises en fait?
Bah, on va dire que ma vie principale, elle est à Strasbourg. Donc, j'ai vraiment toutes mes affaires à Strasbourg. Je passe des week-ends à Strasbourg. Et quand je ne suis pas en tournoi et que j'ai un week-end de libre, bah là, je vais rentrer chez moi à la maison, donc dans la banlieue parisienne. Mmh. Et ensuite, par rapport aux interclubs, j'ai 10 journées dans l'année, où 5 où je suis à Fos et après 5 où je suis avec le reste de l'équipe dans les autres clubs, quoi. Et du coup, je m'organise comme ça.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Fos cette saison? Parce que avec ce que tu nous as dit, en plus, l'emplacement du club dans le sud de la France, c'était pas forcément le plus logique pour toi. Par exemple, on aurait pu te voir à la SPTT Strasbourg. Est-ce que, par exemple, j'imagine que le fait que ta partenaire de mixte, Elsa Jacob, y joue déjà, a peut-être joué un rôle?
Ah oui, forcément, ça a joué un rôle parce que le père d'Elsa, Elsa connaissait bien Thomas, du coup, Popov. Et ils recherchaient un Français, un jeune. Du coup, moi, ils ont pensé à moi. Et vu que j'étais le partenaire d'Elsa, bien sûr, ils me connaissaient un petit peu. Et du coup, moi, j'avais un peu anticipé. Je voulais quand même changer de club pour avoir des aides financièrement. Mmh. Et forcément, quand Thomas Popov m'a fait une proposition, moi, j'ai un peu réfléchi, mais j'ai pas réfléchi longtemps. Du côté financier, c'était OK pour moi. Et puis après... le fait de pouvoir s'entraîner avec Tommy Christo, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir faire des bons matchs en top 12, ça m'a donné envie d'y aller, quoi.
Et justement, en rejoignant Fos, c'était quand même un gros changement pour toi parce que tu étais dans une équipe qui était en R2. Là, tu te retrouves en top 12. Comment tu l'as vécu et comment tu le ressens, ce changement?
Moi, on va dire que je suis super content d'être allé à Fos, en tout cas. Parce que déjà, c'est une équipe qui est super cool, avec de très bons joueurs. Donc, il y a une ambiance vraiment cool. Il y a des étrangers, des Français, des jeunes, des un peu plus vieux. Du coup, c'est vraiment bien. Puis ensuite, je pense que le fait de jouer en top 12, peut-être qu'on aurait pu dire que c'était un peu compliqué au début, sur le papier, parce que j'étais déjà mixte 1, je crois, parce que j'avais quand même beaucoup de points. Mmh. Mais finalement, ça m'a donné, je pense, beaucoup d'expérience. Ça m'a donné des très gros matchs. J'ai joué des très bons étrangers et des très bons Français aussi. Puis ça peut aussi nous permettre de... On fait des très gros matchs avec Elsa en top 12 aussi, parfois pour se préparer, mais ça peut lui permettre déjà de jouer avec Tommy Christo aussi, de changer, et moi de jouer avec Maï, la danoise aussi, et de changer aussi, qui est toujours bien pour le mix, quoi.
Et on va se... Juste un petit mot sur la dernière journée, vous gagnez 6-2 à R sur la lice, mais toi notamment, déjà t'as pas joué ton double homme parce que R en avait pas, et vous avez perdu en mixte contre Flavie Vallée et Louis Ducrot. J'allais te demander comment t'expliques cette défaite un petit peu surprenante, mais juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu me disais que là tu sortais d'une grosse période où vous avez beaucoup joué. Est-ce que t'étais un peu, il y a eu un peu de fatigue sur le terrain de ton côté?
On a perdu en 2-7 contre Louis et Flavie. Donc oui, c'était assez surprenant. Moi personnellement, j'étais très fatigué mentalement et physiquement. J'ai pas réussi à trouver les ressources pour aller chercher un set et gagner le match. Après, en face, ils ont bien joué. Moi, on n'a pas joué à notre meilleur niveau et on a beaucoup enchaîné. C'était compliqué. Après, ils ont mieux joué que nous et voilà.
Oui, parce qu'on l'a pas précisé depuis le début, mais t'étais quand même au championnat d'Europe et vous avez passé deux tours de mémoire, un tour, vous avez joué deux matchs et du coup cette fatigue aussi, elle, ça peut s'expliquer par là aussi.
Oui, voilà.
On reste un peu sur le top 12. Quel bilan tu tires plus globalement de ta saison? Donc tu disais que t'as pris de l'expérience en jouant avec notamment d'autres joueurs et contre des joueurs un peu plus peut-être costauds que ceux dont t'avais l'habitude. Voilà, quel bilan tu tires de ta première saison de top 12?
Je pense que j'en tire un bilan plutôt positif. Comme je disais, sur le fait d'avoir joué de très gros matchs, des bonnes paires, des moins bonnes paires où j'ai réussi à gagner, enfin à part là où on a perdu, quoi. Mais ouais, ça me donne de l'expérience, comme quand on a joué contre Tom, on a joué contre Ronan, on a joué contre Toft. Donc forcément, c'est des matchs qui donnent beaucoup d'expérience, qui sont durs et qui nous donnent de l'expérience. Ouais, du coup. Et puis j'ai pas perdu énormément de matchs. Je pense que j'ai fait plutôt une bonne saison. En double homme avec Tommy, on a fait deux matchs, on a gagné les deux matchs en 2-7. Donc non, je pense que globalement, j'ai fait une plutôt bonne saison et je suis plutôt content du niveau.
Et c'est une saison qui n'est pas encore terminée parce que on t'a demandé de tirer un bilan, mais en vérité, vous allez quand même jouer les playoffs, ce qui n'est pas rien pour une première saison en top 12, en tout cas pour toi, mais même pour le club, c'est quand même un premier objectif, j'ai envie de dire. Vous allez jouer Strasbourg en playoffs. Potentiellement Chambly, donc en fonction des résultats des demi-finales. Comment tu vois ces rencontres et quels sont vos objectifs et toi tes objectifs perso plus sur le double homme et le double mixte en playoff? Il y a beaucoup de questions à Nune. Ouais.
Ouais, déjà voilà, on est content d'aller au playoff, c'était l'objectif, hein. Maintenant on joue la SPTT Strasbourg, donc notre objectif ça va être de gagner la demi-finale, de gagner pour retrouver très sûrement Chambly en finale. Puis ensuite, on va espérer faire mieux, enfin que le club fasse mieux que l'année dernière, et on va espérer chercher la victoire à Chambly contre Chambly. Ouais.
Et toi, je me demandais par exemple, est-ce que avant des rencontres comme ça, tu regardes ou alors tu sais déjà qui tu vas jouer, tu vois, est-ce que tu te dis, ah, je vais potentiellement jouer, je sais pas, par exemple, William Villéger à Strasbourg, il joue comme ça, je vais devoir faire ça, ou à Chambly, tu te dis, ce sera peut-être un Marcus Ellis que tu as joué aux Europes, justement. Est-ce que tu réfléchis à ce genre de choses avant les matchs?
Oui, forcément, je réfléchis un petit peu. Après, du coup. La compo, nous, on l'a fait à peu près même pas une heure avant. Et du coup, je sais pas avec qui je vais jouer. Je sais pas forcément contre qui. Donc, ouais, par exemple, là, contre Chambly, forcément, si je suis mixte 1, je sais que je vais jouer Ellis et Smith. Donc, oui, il y aura peut-être une petite analyse. Enfin, on va analyser les matchs avec Thomas, tout ça pour donner le plus de chances de gagner, quoi. Mais oui, on regarde un peu sur le papier qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, quoi.
On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose un peu à tous nos invités. C'est comment l'ambiance à Fos cette année? Et quand je dis l'ambiance à Fos, pas entre vous, mais plutôt l'ambiance, le public.
C'est-à-dire
Je parle de l'ambiance pendant les rencontres de top 12. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que pour toi c'était un gros changement par rapport à la R2? Parce que c'est quand même pas la même chose.
Ah oui, à Fos, je pense que c'est pas là où il y a le plus de public en tout cas. Mais après, il y a toujours un petit peu de monde. C'est forcément quand il y a Tommy Christo, ça attire un peu plus de monde. Mais ouais, c'est sûr que ça change de la R2 et c'est super cool de jouer en top 12. Par exemple, voir notamment la rencontre quand on a joué à Saint-Maur, où il y avait vraiment, vraiment beaucoup de public. C'était vraiment cool là. À Saint-Maur, c'était vraiment une bonne rencontre avec beaucoup de public. Donc c'était cool et c'était toujours des bons moments passés, que ce soit avec le public ou avec l'équipe et même avec l'équipe adverse.
Et on a aussi des petites questions un peu plus sur ta saison, sur ta saison perso, et notamment, j'imagine, ce qui a été un des grands moments de cette saison, c'est ton titre de champion de France avec Elsa Jacob en mixte il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu t'attendais à décrocher ce titre, on va dire, aussitôt dans ta carrière? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'atteignent jamais. Toi, tu l'as atteint et très tôt, à 18 ans. Est-ce que voilà, tu t'y attendais? Est-ce que c'était un objectif, par exemple, au début de ta saison?
Alors, au début de la saison, non, on n'y pensait pas du tout. C'était pas un objectif, on va dire. Mais plus ça se rapprochait, plus on en parlait, notamment quand on a vu... Quand on a vu la liste, déjà quand on a fait nos premiers résultats cette année, on a fait plutôt des bons résultats, que ce soit à l'international ou au top 12. Donc ouais, on se disait que c'était largement possible, mais on se prenait pas trop la tête. Et après, quand on a vu l'accept only, les joueurs qui avaient le chemin de France, tout ça, bah oui, forcément, on s'est dit qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait gagner, mais on s'est pas mis une grosse pression. Puis la semaine avant le chemin de France, on s'est entraîné à Fos pendant une semaine avec Tommy et Christo, donc ça nous a mis dans le rythme. Puis voilà, ouais, on était. Bah, quand ça s'est fait, quand on a vu les tableaux, ça, on s'est dit, bah en fait, on peut largement le faire. C'est pour nous, quoi. On est à la maison, on va tout donner et on verra bien. Et bah ça a pas loupé, quoi. On a réussi à gagner le titre à la maison.
Ouais, c'est vrai que le fait que Tom et Delphine n'aient pas joué, c'était un tableau du coup vachement ouvert. Nous, on s'était dit avec Benoît, il n'y avait pas de grand favoris avant la semaine. Vous faisiez partie un peu des deux trois paires qui en étaient capables, quoi. Au final, vous l'avez montré, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vu qu'il n'y avait pas Tom et Delphine, les quatre têtes de série étaient, ça pouvait être des gros matchs, ça pouvait être qui tout double, on ne savait pas trop. Mm-hmm. Et voilà, nous, on a pris les matchs un par un, on a réussi à aller jusqu'en finale. Et en finale, on a gagné en 3-7, donc c'était super cool, quoi. C'était vraiment très cool.
Et est-ce que vous avez senti avec Elsa un changement un peu dans la façon dont on vous considère? Donc, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais en mode maintenant il y a un champion de France, Tom et Elsa, on sait qui c'est. Est-ce que pour vous ça a changé, je sais pas, des sollicitations de médias ou ce genre de trucs, ou pas forcément, ça a pas changé grand-chose?
Bah, on va dire que oui, ça a changé un petit peu, notamment sur quelques autographes, des photos où c'est les champions de France. Ça parle un petit peu, quoi. Après, moi, le lendemain, je suis retourné à Strasbourg et j'étais heureux avec le groupe. Et enfin, ça n'a pas trop changé sur cet aspect-là, quoi. Ça reste. Quand je suis dans le haut niveau à Strasbourg ou que je suis aux Europes avec tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont été champions de France, tout ça, donc ça change pas grand chose. Après, c'est plus quand je vais retourner chez moi ou dans mon ancien club ou des trucs comme ça. Après, forcément, quand t'es à Fos, c'est que par exemple, on était champions de France, on arrive à Saint-Maur. C'est pareil dans l'équipe, il y a Tommy et Christo qui sont champions de France en double, il y a Christo qui est champion de France en simple, Tommy qui est vice-champion en simple, donc ça change pas forcément grand chose, mais un petit peu, quoi.
Et là, un peu pour le futur, c'est quoi tes grands objectifs pour, on va dire, les mois qui arrivent, pour le reste de la saison et, je sais pas, peut-être la prochaine? Je pense notamment, tu me parlais d'un classement mondial ou alors éventuellement l'équipe de France. J'imagine que tu dois avoir ça un peu en tête. C'est quoi tes grands objectifs?
Bah là, on va dire sur les prochains mois, du coup, on a encore 3-4 tournois seniors. Les playoffs et le championnat de France jeune, donc déjà être champion de France jeune, ça c'est évident. Ensuite, on espère être top après 80, 75 avant la fin de la saison, donc en juillet. Et ensuite, les vrais objectifs, c'est les championnats du monde junior en Chine, qui sont en octobre. Et ensuite, les championnats d'Europe junior qui se déroulent en Espagne, et je crois que c'est en novembre. en novembre.
Ok, donc on va dire tes gros rendez-vous là pour l'instant, ça reste le circuit junior, puisque en gros j'imagine que après les championnats du monde en octobre, pour toi ce sera fini si je me trompe pas.
Ouais, bah après il y a les championnats du monde, ensuite les championnats d'Europe, et là ça sera
ah oui,
fini
l'Europe après. Ouais,
okay. Ça sera fini le junior, ouais.
Oui,
okay, ça marche.
Sera fini le junior.
Sachant que on peut quand même le dire, bon, c'est pas la liste est pas définitive pour les mondiaux juniors, je crois, mais à l'heure où on parle, vous seriez au pire tête de série 2, si je dis pas de bêtises. Donc, quand tu parles d'objectifs, voilà, c'est clairement, t'arrives dans un statut, vous arrivez dans un statut de favori ou de favori à la médaille avec Elsa.
Voilà, c'est ça. Donc, d'après le classement mondial junior, je crois que. On est 3 et 3, donc
ouais.
On sera normalement, si ça sort aujourd'hui, on est peut-être de série 1 ou 2. Mm. Après, je crois qu'il y a encore les championnats d'Asie, donc les Asiates vont encore prendre des points. Mm. Donc après, c'était pour ça qu'on a fait voir en U19, pour prendre des points juniors et être de série au championnat du monde. Après, voilà, l'objectif au championnat du monde, c'est de faire une médaille, d'avoir une médaille, et ensuite, bien sûr, de gagner d'autres deux finales, et pourquoi pas de gagner d'autres finales. Mais on y va en tête avec la médaille en tête, voilà.
C'est un bel objectif. Et on sait que, alors toi, c'est particulier parce qu'en plus, juste après, du coup, les Jeux Olympiques, là, tu vas commencer l'Olympiade en quittant le circuit junior. Mais on sait que à chaque début d'Olympiade, il y a souvent pas mal de remaniements. Est-ce que toi, ça va changer quelque chose? Je pense notamment à un projet, je sais pas, par exemple en double homme. Est-ce que te mettre au double homme sur le circuit senior, c'est dans tes plans, ou alors tu vas te concentrer sur le mixte avec Elsa?
Non, bien sûr, moi le double homme, j'adore ça, c'est un tableau que j'aime vraiment. Donc moi j'ai même là, ça me manque, j'ai envie de faire du double homme. Après voilà, le problème c'était que vu que j'étais encore junior, et je pouvais pas jouer, enfin je suis encore junior, donc je peux pas jouer avec un senior, parce qu'il y a, moi j'ai plein de tournois juniors, les championnats du monde, les championnats d'Europe, le Dutch, le German, donc ça fait que c'est pas possible sur le calendrier. Donc on a décidé de ne pas faire de double homme cette année. Ensuite, moi, l'année prochaine, ça va être compliqué parce que je vais voir avec qui je vais commencer la saison, sauf que j'aurai 3 semaines au championnat du monde, 2 semaines au championnat d'Europe. Mais bien sûr, moi, j'ai envie de reprendre le double homme, de m'y mettre à fond, comme ça je suis en double et en mixte. Et après, il faudra voir avec quel partenaire je jouerai, tout ça, quoi. Mais oui, je vais reprendre le double homme sûrement.
Ok, ça marche. En tout cas, c'est bon, c'est bon à entendre. Nous, je vais pas te le cacher, on a un serveur Discord avec pas mal de fans de podcast, et il y en a beaucoup qui appelaient de leur vœu effectivement de te voir en double homme. Il y en a beaucoup qui le voulaient, notamment, voilà, je balance le nom, qui voulaient te voir avec Tom Jiquel. Mais bon, c'est pas nous et c'est pas les gens du serveur Discord qui répondent. Et une toute petite dernière question, tu m'en as un peu parlé avant qu'on enregistre. Tu as parlé de tes grosses échéances, mais là dans les semaines à venir, du coup, c'est quoi ton programme? Si j'ai bien compris, ça va commencer avec une semaine de repos bien méritée.
Ouais, voilà, bah là j'entame ma semaine de vacances. Donc voilà, c'est pour ça que je suis chez moi en vacances. Ensuite, j'arriverai. Donc lundi, on reprend au Pôle France à Strasbourg pour ensuite repartir directement jeudi soir. Donc on commence par le Luxembourg Challenge. Ensuite, on fera les championnats de France jeunes. Ensuite, les playoffs du top 12. Et on finira par l'Autriche IS et Nantes Challenge pour finir la saison.
D'accord, bah c'est bon à savoir. Donc notamment. Si vous êtes en France du côté de Lyon pour les championnats de France jeunes, ou du côté de Nantes pour le Nantes International, les gens sauront qu'ils pourront te voir dans ces deux compétitions. Eh ben, merci beaucoup Tom d'être passé nous voir. C'était très cool. Et puis évidemment, on te souhaite le meilleur pour les échéances dont tu viens de parler.
Bah, merci beaucoup, merci à vous en tout cas, et merci encore. Voilà.
Et nous, de notre côté, on va s'intéresser donc aux rencontres de cette 10e journée. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le FOSS R sur la Lys qui comptait, bah, comme pas mal de rencontres, hein, on va pas se mentir, qui comptait pas, enfin qui n'avait pas vraiment d'importance au classement, donc Ducrot-Valais qui vont chercher un point pour R. Romain Franck qui va chercher un deuxième en battant Atanasov en SH2, vu que Christo était aligné que sur des tableaux de double. Reste, c'était un peu une promenade de santé pour Foss sur mer.
Ouais, bah t'as tout dit. Le seul mot que je voudrais rajouter, c'est pour ceux qui ont pas vu leurs réseaux sociaux, peut-être pour la joueuse de R, Romane Clotofoucault, qui a avoué, qui a mis un message sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle avait subi un AVC au mois de janvier et qu'elle revenait à fond. Juste, c'était plus pour un mot de soutien, plus que parler de la rencontre en elle-même, qui, comme tu l'as dit, n'avait que peu ou pas d'enjeu.
C'est clair. Non, mais tu fais très bien de le mentionner. Puis en plus, nous, on se demandait aussi pourquoi on la voyait plus trop ces derniers temps sur le terrain, notamment à R sur la liste. Donc voilà, on a la réponse et évidemment, on lui souhaite un très bon rétablissement. L'autre, du coup, il n'y avait qu'une seule autre rencontre dans cette poule, puisque une équipe ne jouait pas. C'était le Aix-en-Provence Red Star Mulhouse. La rencontre qui nous avait régalé à l'aller, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Benoît, mais ça avait été potentiellement la rencontre de la saison. Ronan Labarre en avait même parlé quand il était venu nous voir pour la dernière journée. Là, on n'a pas eu la même chose. Faute d'enjeu, hein, tout simplement, puisque dans cette poule, les deux premiers étaient déjà verrouillés, les deux premières places. Donc c'est une équipe remaniée de Mulhouse qui s'est présentée en Provence, notamment sans Arnaud Merclet qui était pris par les playoffs avec son club allemand. Tom Jickel n'était pas là non plus. Mia Blichfeld était absente. Deux matchs gagnés par le Red Star, à savoir Mouabad Iqbal en simple homme 1 qui a battu Johan Barberi, parce que vous allez voir qu'il y avait aussi quelques absents côté aixois. Et en double dame, Margot Lambert et Camille Poignante ont battu Juliette Moinard et Maria Mitsova. Le reste, tout a été gagné donc par les locaux. Lian Tan a battu en 3-7 notamment l'indonésienne Sabrina Olia Yasmin, 3-7 également pour la paire Toft Moanar face à Alimov Poignante, et Rodion Alimov a aussi perdu son double homme avec Mouamad Iqbal contre Ronan Labarre et Jesper Toft. Voilà, Benoît, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur cette victoire 6-2 d'Aix-en-Provence.
Oh non, peu d'enjeux, Foss pas du tout, pardon, Aix a joué le jeu, plutôt je trouve de la rencontre, après on peut pas en vouloir sur une dernière rencontre, il n'y avait aucun enjeu pour aucune des deux équipes, sachant que t'as mentionné Arnaud Merclet mais qui était au playoff en Allemagne et pour lui il y avait plus d'enjeux en Allemagne, bon voilà, on peut pas attirer grand chose de ces rencontres comme de celle de la précédente dont on a parlé.
Voilà, donc on va passer dans la poule 1, où là il y avait un petit enjeu, puisque c'était Strasbourg qui avait fait le plus dur a priori pour sa deuxième place, mais qui devait, il me semble, ne pas perdre face à Marom. Ils étaient largement favoris et ils ont gagné sur le score de 7-1. Le match gagné par le MSA, c'est Marius Reboul-Alexandre en simple homme 2 qui a battu Nathan Bega. Gros match, 19-21, 21-19, 21-17. Donc victoire de la recrue de Marom. Pour le reste, Strasbourg a gagné, c'est pas baladé sur tous les matchs, notamment une victoire en 3-7 de William Villéger et Sharon Bauer contre Julien Maillot et Martina Corsini. Donc Alex Lanier était là, il a gagné son simple facilement contre Fabio Capogno, 21-13, 21-7. Rosie Pancassari a facilement battu Juliane Piron. J'ai pas Benoît. Strasbourg finit quand même, on peut peut-être extrapoler un peu, finit quand même très bien la saison.
Ouais, c'était exactement ce que je voulais dire au-delà de la rencontre, parce que voilà, c'était pas le plus grand enseignement, mais voilà, l'enseignement justement, c'est que Strasbourg a pas eu que des moments faciles, mais finit sa saison en trombe, je sais pas, mais au mieux de ce qu'ils pouvaient espérer, ils vont arriver en play-off. En tout cas, j'ai l'impression, en se disant qu'ils ont récupéré le maximum de leur effectif et avec le plein de confiance ou quasi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et pour Strasbourg et pour la qualité des play-offs.
Voilà, exactement. Derrière, les deux poursuivants de Strasbourg, à savoir Cholet et le Racing Club de France, se sont neutralisés. 4 partout, une grosse rencontre bien serrée quasiment sur tous les matchs, donc je vais vous détailler un peu ça. En simple, on a Elias Brack, le joueur belge, qui a abandonné au 3ème contre Valentin Singer, donc un point pour le RCF, mais Martin Oisan a battu Arthur Vakevich pour l'autre simple, donc un simple homme partout. Les deux simples dames ont tourné pour les visiteurs, donc pour le RCF. Abigail Louise Holden a battu Shuei 21-18, 4-21, 21-18, c'est ce que j'appelle un match bien géré. Georgina Helen Blend a battu Gaëlle Mahulette 21-18, 21-14. Ça c'était pour les simples, et pour les doubles, le RCF n'en a pris qu'un, c'est le double homme. Quentin Ronger et Thomas Vallée ont battu les corvées, Jordan et Samy, 21-12 au 3ème. Le reste, Cholet a gagné ses matchs, avec notamment Malena Norman qui a gagné ses deux matchs, en double dame avec Shuei, et en double mixte avec Martin Oisan. Le dernier, c'est Léa Palermo, qu'on a reçu ici, qui jouait avec Jordan Corvée. Ils ont battu Quentin Ronger et Anne Tran. Benoît, quelques petits résultats surprenants, que je trouve notamment, je sais pas, par exemple, j'aurais pas pronostiqué la victoire de Corvée-Palermo contre Ronger-Tran. J'aurais pas pronostiqué la défaite de Shuei en simple dame. C'est des, y a eu des résultats, quand même, quand tu t'y penches, un peu surprenants, je trouve.
Ouais, ben je partage totalement. En fait, c'est une des seules rencontres, pour être très honnête, où j'ai regardé des matchs. Et moi, j'étais curieux de voir Malena Norman, notamment, que j'avais pas trop vu jouer cette saison, alors que de mémoire, c'est au moins sa 4e ou 5e journée. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment une joueuse. J'espère que Cholet, je sais pas les détails de son contrat, mais j'espère que Cholet pourra la conserver, parce que vraiment, c'est le genre de joueuse qui apporte énormément. Et comme toi, j'ai été assez surpris, même de Arthur Vakevich, que je voyais, même dans un match équilibré, quand même peut-être gagner. Il y a eu quelques surprises. Maintenant, évidemment que les deux équipes jouaient pour gagner en espérant se qualifier, mais je pense aussi que dans la tête, il y avait forcément le truc de se dire que c'était quasiment terminé pour Strasbourg. En tout cas, c'est deux équipes que j'ai hâte de revoir la saison prochaine, parce que je pense qu'elles sont à peut-être une ou grand max deux recrues de devenir des prétendants plus au play-off. Ce qu'il a manqué cette saison, peut-être.
Ouais, c'est vrai. Et même si, au final, c'était cool, parce que notamment côté RCF, il manquait un peu. Par exemple, il manquait Genjira Stadelman. Ouais. Côté Cholet, il n'y avait pas de Marc Caliou. Donc, il manquait quelques étrangers, mais du coup ça a donné une rencontre très équilibrée et assez sympa à suivre. Donc et le niveau restait quand même très très élevé, hein. Je parle pas d'une rencontre équilibrée où c'était des joueurs R4 qui jouaient, même si j'ai rien contre les joueurs R4, évidemment. La dernière rencontre s'est finie sur le même score, 4 partout entre Arras et Chambly, deux équipes qui jouaient plus grand chose, hein, parce que Arras, les playoffs c'était mort. Côté Chambly, ils étaient sûrs d'être premiers, mais ils finiront quand même pas à 10 victoires en 10 journées. D'ailleurs, Benoît, je t'avais parlé de l'enfer de Giraudon à la dernière journée, tu m'avais rionné, et ben voilà. Finalement 4 partout, donc les deux simples hommes ont tourné pour Arras, même s'il y en a un qui s'est pas vraiment joué, puisque Yann Lauda a joué qu'un demi-set contre Toby Penty avant d'abandonner. Le reste, Léo Van Gisel a battu Thomas Rouxel 21-5, 21-19. Benoît, je t'interrogerai là-dessus après. Les simples dames partagées entre les deux équipes, Émilie Drouin a battu Chloé Birch 21-17, 16-21, 21-10, tandis que Marie Batomen a battu Eva Bouville 21-7, 21-10 dans le simple dame 2. Émilie Lefel et Léo Rossi ont gagné le mixte 2 en 3-7 contre la paire Eloi Adam et Eva Bouville, mais le reste c'est Chambly qui l'a gagné, notamment avec des victoires assez faciles avec Ellie Smith en mixte et Lauren Smith, Émilie Drouin en double dame. Et un beau combat entre remporté par Fabien Delrue et Marcus Ellis contre Léo Rossi et Ethan Van Leeuwen, le joueur anglais. 20-22, 21-16, 21-16. Voilà, Benoît, je t'écoute et vous l'aurez compris, même si je l'ai pas dit spécifiquement, mais deux équipes où il manquait du monde, surtout côté Chambly, notamment en simple dame.
Ouais, c'est surtout pour ça que je voulais nuancer l'enfer de Giraudon. Attention, hein, je suis pas en train de remettre en cause l'ambiance qu'il y a dans cette salle, parce que franchement, je pense que c'est une des plus belles salles de top 12, si ce n'est la plus belle que j'ai faite. Mais voilà, Chambly, spoiler alerte, je préfère le dire à son futur adversaire en playoff, ne viendra pas avec cette compo le jour des playoffs.
Non, effectivement.
Je suis très sincèrement même pas sûr qu'on voit Thomas Rouxel, en qui je sais qu'on a beaucoup discuté de simple homme cette saison à Chambly. Est-ce que Thomas Rouxel, est-ce que Hans-Christian Vitingus, les deux seront sans doute là au playoff. Qui jouera, c'est une question, parce que on a critiqué Vitingus ouvertement dans ce podcast, et les inquiétudes ou les critiques sont les mêmes pour Thomas Rouxel, très sincèrement. C'est quand même Léo Van Gisel a fait un super match, surtout un super deuxième set de ce que j'ai pu regarder, mais très sincèrement on voit bien que c'est plus, non plus son niveau, et que même un simple homme 2 de top 12 contre une équipe qui va pas en playoff, c'est compliqué. Donc voilà, c'est plus des inquiétudes à ce sujet là mais des inquiétudes que je sais que tu partages, puisqu'on en a déjà régulièrement discuté dans les épisodes de top 12.
En fait, c'est dingue parce que Chambly, ils ont fait une saison où ils écrasent tout le monde et ils sont multiples champions en titre. Et c'est dingue que... Alors là, ils n'ont pas eu de chance avec la blessure de Yann Lauda. D'ailleurs, si vous savez ce qu'il a spécifiquement, n'hésitez pas à nous le dire. Et notamment si c'est une blessure qui l'empêchera ou pas d'être en play-off dans deux semaines. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment trouvé la clé et personne n'a vraiment fait le boulot... cette saison en simple homme à Chambly. Voilà, et pour le reste voilà, notamment l'absence de Delphine Delrue, je pense notamment de Léonie Sué aussi, il manquait Béatrice Corrales, voilà, je pense que ça a pas mal aussi plombé Chambly. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la rencontre.
Ouais, non, mais même de manière générale, on peut imaginer que les paires alignées là, ou avec les joueurs cités notamment, mais enfin, ouais, voilà, on peut imaginer que Chambly avait peu à jouer et finalement a tenté aussi des trucs sur cette journée.
Et du côté d'Arras, je voulais juste saluer Marie Batomen et Émilie Lefel qui arrêtent toutes les deux, qui jouaient leur dernière saison en top 12. Deux joueuses déjà historiques de ce championnat. Émilie Lefel l'a gagné avec Bordeaux, je crois, il y a très longtemps, mais a surtout beaucoup joué avec Arras ensuite. Marie Batomen a longtemps joué à Aulnay-sous-Bois et a fait les 3-4 dernières saisons avec Arras. Et donc voilà, saluer deux joueuses que moi personnellement j'aime beaucoup, et aussi pointer du doigt le fait que le renouvellement va être intéressant à suivre à Arras, et qu'il va falloir bien négocier ce virage, je pense, parce que même si ces deux joueuses qui n'avaient plus forcément le niveau qu'elles avaient, notamment quand elles jouaient en équipe de France, elles te sortaient quand même de pas mal de mauvais pas encore ici. Donc hâte de voir ce que ça va donner pour le BCA. Côté classement, qu'est-ce que ça donne? Alors, dans la poule 1, du coup, voilà, maintenant on a le classement final des poules après la saison régulière. Chambly finit avec 50 points, 15 points devant son plus proche poursuivant qui est Strasbourg. Donc Strasbourg qui malgré des passages compliqués, notamment un début de saison compliqué, finit bien deuxième avec 35 points, 4 points devant Cholet, 31. RCF 28, Arras 27. Donc voilà, entre ces 4 là, ça a été à peu près serré pendant les 8-9 premières journées. Et Marom qui finit un peu largué avec 13 points. Mais voilà, qui était quand même pas dans une poule facile. Dans la poule 2, donc Fos-sur-Mer finit avec 46 points. Devant le VGA qui finit avec 40 points, ce qui est quand même dingue, Benoît, parce que au final tu te dis qu'ils finissent quand même 5 points devant Strasbourg, qui est avec 5 points de plus que Strasbourg, qui est deuxième dans l'autre poule. Enfin, pour une première saison pour le VGA, finir avec un bilan de 7 victoires, 1 nul et 2 défaites, c'est quand même assez incroyable. Il faut le noter, de toute façon on en reparlera pour les playoffs. Mulhouse 3e avec 34 points, Aix-en-Provence 31, Aire sur la Lys 21 et donc Talence qui descendra puisqu'ils avaient arrêté en cours de deux saisons. Benoît, avant que on se projette vite fait sur les playoffs, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les classements, les équipes qui vont ou surtout qui ne vont pas en playoffs?
Bon, on en a déjà parlé et forcément on en parlera aux playoffs, mais la grande surprise c'est à la fois l'absence de Mulhouse et la présence du VGA. C'est pas un vol, hein, c'est pas le sujet, mais c'est la grande surprise. Très clairement, en début de saison, je pense avoir annoncé que le VGA jouerait le maintien, donc je vais pas me cacher derrière oui, mais non. Je pense très sincèrement que même au VGA, on visait pas forcément les playoffs en début de saison.
Je pense que j'avais annoncé comme toi, hein, donc il y a pas de problème là-dessus et je suis totalement d'accord avec toi. C'est la grande surprise. On est surpris à la fois de la très très bonne saison du VGA et à la fois de la saison décevante de Mulhouse à qui il a manqué des joueurs et des joueuses trop nombreuses fois. Voilà, donc maintenant le programme c'est les playoffs, il me semble que ça se joue le vendredi et samedi, donc ce sera les 3 et 4 mai prochains, donc voilà, dans deux semaines. Le programme des demi-finales, on aura donc Strasbourg contre Fos-sur-Mer et Saint-Maur contre Chambly, donc ça ce sera le vendredi, et le samedi on aura un match pour la troisième place entre les deux perdants des demi-finales et évidemment ensuite la grande finale de top 12 pour trouver l'équipe qui succédera à Chambly. Et Benoît, je vais pas te laisser partir comme ça, je veux maintenant là un petit classement des playoffs, qui va finir 1, qui va finir 2, qui va finir 3, qui va finir 4 s'il te plaît.
Fos-sur-Mer va être champion de France.
D'accord.
Face à Chambly. Strasbourg va terminer 3e et le VGA 4e.
D'accord, très bien. Ben moi, je...
Donc, normalement, le VGA va être champion de France.
Effectivement. On dit tellement qu'ils perdent qu'au bout d'un moment, voilà. Moi, je vais dire les mêmes résultats de demi-finale que toi. Je pense que c'est un peu l'évidence quand même. Mais je vais inverser les deux autres résultats. Ouais. Je vais dire que Chambly va être champion contre Fos et que le VGA va finir 3e devant Strasbourg 4e. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que le potentiel Fos-Chambly, ça peut être une des meilleures finales des 5 dernières années?
Ouais. Remake de l'année dernière, me semble-t-il. Et oui. Là, ça paraît vraiment équilibré. Bah, le fait que toi et moi, on ne dise pas le même vainqueur, ça montre bien qu'il n'y a pas de clair favori, je trouve. Ces deux équipes qui ont archi-dominé leurs poules respectives. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Je pense que ça va être très très intéressant à suivre. Et on espère deux équipes au complet. Mais je pense qu'avec le positionnement des playoffs dans le calendrier, ça devrait le faire. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial fin de qualif olympique. Inutile de vous dire que cet épisode, il va être, on l'avait positionné depuis longtemps, mais avec les événements récents, notamment ce qui se passe au niveau du double homme français, on sait toujours pas qui va aller aux Jeux Olympiques alors que la qualif est censée être plus ou moins terminée. Il va en avoir des choses à dire. L'épisode ne sortira sûrement pas le lundi puisque la liste définitive des classements à la race sera publiée a priori le 30 avril, donc je pense qu'on essaiera de le sortir le mercredi 1er, le jeudi 2, on sait pas encore, mais voilà, la semaine prochaine on sort un épisode sur la fin de la qualif olympique et notamment on va vous raconter, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'imbroglio autour des paires Labar Corvée et Popov en double homme. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的？